Here's a song that comes from Tanzania.
Bonjour, 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 chères auditrices et auditeurs de Radio Galère, pour cette émission Livres et Amis du mercredi 31 janvier. Nos émissions de janvier n'ont pas été très régulières. La semaine dernière, vous avez eu une rediffusion, et cette semaine, nous enregistrons chez Françoise, donc excusez-nous pour la qualité du son qui n'est pas toujours aussi satisfaisante qu'en studio. Pour notre dernière émission en direct, nous vous avions lu les témoignages de femmes originaires du Maghreb installées en région parisienne à Argenteuil. C'était souvent des maîtresses de maison qui sortaient peu, d'où le titre « Femmes d'Argenteuil dans leur intérieur », un peu comme dans le tableau de Delacroix, on en avait parlé, « Femmes d'Alger dans leur intérieur ». Eh bien, cette semaine, ce serait plutôt « Hommes du Sénégal », dans sa boutique et dans Marseille. Nous restons sur la piste de témoignages de migration, mais nous changeons de lieu d'origine, de lieu d'arrivée et surtout de personnage. Le titre entier du livre de cette semaine, c'est « Du Sénégal à Marseille, migration réussie d'un gentleman rasta ». En effet, le gentleman rasta, c'est bien le héros de l'histoire, Tom Thomas Sarr, raconté par une journaliste locale, Brigitte Bertoncello. Le livre est paru en 2009 aux des éditions L'Harmattan, mais il garde toute son actualité puisqu'il raconte un parcours de vie sur toute la deuxième moitié du XXe siècle et aussi le début du XXIe. Ce livre, c'est une suggestion de Françoise qui a été tout à fait fascinée, comme beaucoup d'autres, par la personnalité de Tom Thomas Sarr. Et voilà en effet ce qu'en dit Brigitte Bertoncello au début de son livre. Et vous verrez, il y a des moments où c'est Brigitte qui parle, il y a des moments où c'est Tom qui parle. Pendant l'ensemble de l'ouvrage, vous reconnaîtrez les voix, c'est un petit peu ça. Alors, que dit Brigitte ? Cet ouvrage, c'est l'histoire d'un parcours migratoire entre le Sénégal et Marseille. C'est l'histoire d'un homme, Thomas Ambassar, dit Tom, propriétaire éclairé d'une boutique rasta implantée en plein cœur de Marseille, dans le quartier Belzins, quartier d'accueil des différentes vagues migratoires qui se sont succédées dans la ville depuis la fin du XIXe siècle. Et Tom, c'est aussi l'amour d'une ville, Marseille, et d'un véritable attachement pour son pays d'origine, le Sénégal, avec une attention particulière accordée à son village d'origine, Palmarin, et à ses habitants, Palmarin, le petit village de pêcheurs où Tom a grandi. Français d'origine sénégalaise, Tom est installé dans la cité phocéenne depuis plus de 40 ans maintenant et partage sa vie avec son épouse, Claudie, plus aristocratiquement baptisée la baronne. Tailleur et créateur, il s'est forgé un look bien à lui et déambule dans les différents quartiers de Marseille à bord d'un taxi anglais repeint aux couleurs rasta. Tom aime porter des chaussures dépareillées. Il s'habille avec de larges pantalons cousus dans des chutes de tissu plus ou moins récupérées. Il noue parfois des lacets rouges, jaunes et verts en guise de cravate. Et il se coiffe d'un béret arborant la carte d'Afrique ou d'un calot en bogolan, ou encore d'un turban à la façon des Touaregs. Régulièrement associé à la vie artistique marseillaise, il est aujourd'hui une référence afro-marseillaise et n'hésite pas à donner son point de vue sur l'actualité ou sur les grands thèmes de société aux journalistes des quatre coins de la planète qui viennent quelquefois le solliciter. Alors lui, oui, lui, c'était au départ un petit noir. Cette histoire, on ne va pas la raconter dans l'ordre, dans la mesure où le protagoniste est vracalisé. Oui, moi, Tom, je suis vracalisé, je suis en vrac. Mais tu vas voir, Brigitte, je sais vite me ramasser, enfin, je sais vite me rassembler. Et ce qu'on va raconter là, c'est des bouts de ma vie, des bouts de ma vie seulement, parce que bien sûr, le reste, c'est mon jardin secret, avec du positif, du négatif, je le garderai pour moi. Si nos ombres pouvaient parler, on en saurait des choses. Mes jardins secrets, je les entretiens, je les arrose, et je ne les dévoilerai pas. Mais je vais vous livrer quand même toute une mosaïque de mes souvenirs. Voilà, donc c'était la première succession des deux paroles, celle de Brigitte, celle de Tom. Et maintenant, on va vraiment commencer l'histoire, comme dans le livre. Alors, avec, vous verrez, des sauts pas très chronologiques de temps en temps. Mais on va commencer l'histoire, comme dans le livre, par l'origine, par l'enfance. Et donc, dans l'introduction, on démarre, on part, disons, ça sera plus joli. On part du village de Palmarin sur la petite côte au sud de Dakar, pas très loin de la frontière de Gambie.
Tout a commencé à Palmarin, un village implanté à environ 130 km au sud de Dakar, là où les plages de la petite côte se fondent dans le labyrinthe de Bolong du delta du Siné Saloum. C'est là que Thomas Sambassar est né vers 1942. Trois frères et deux sœurs ont partagé ou traversé son enfance sous le regard attentif de Charlotte Dibor Sarr et de François Diegan Sarr. Palmarin. Du sable et beaucoup d'arbres, des fromagers, des baobabs, des cocotiers, à proximité de l'océan. Palmarin, un village sans eau courante ni électricité. Dès la tombée du jour, un village très noir, un noir qu'on ne connaît pas en Europe, une obscurité qui rend l'extérieur hostile. Croyances, sacrés, phénomènes étranges, relations entre mondes visibles et invisibles alimentent les histoires véhiculées par les autochtones. Sept baobabs ont été plantés dans l'espace des marais de Ngalou. Ils constituent la maison du protecteur de la petite côte. Mamangé, elle, est installée à l'entrée de Palmarin, là où une église a été édifiée. Une église à côté d'un lieu sacré, ce sont les bizarreries de l'Afrique. C'est elle qui nous protège et qui participe d'une certaine manière à la vie du village. Tu voyais la lumière au loin, sans savoir d'où elle venait. Il n'y avait pas de village, pas d'électricité et la lumière était bien là. C'était magique, c'était inexplicable et du coup ça faisait peur. On courait vite pour ne pas être attrapé. Les pangoules font partie de la vie des villageois et leur présence se manifeste par des actes souvent scientifiquement inexplicables de l'ordre du surnaturel. Avec pudeur et parfois maladresse, Tom fait des pangoules des êtres incontournables de la vie du village. Il semble leur accorder une certaine puissance et respecte leur lieu de culte. Parmi ces lieux, l'eau sous toutes ses formes, à travers les bolongues, rivières, marigots, ou encore bord de mer, occupe une place très importante. Les terres et les arbres sont également investis par les pangoules, sans oublier les places publiques, espaces sociaux où les hommes se retrouvent les jours où ils ne vont pas au champ. Au sujet de l'enfance au village, j'ai plein de souvenirs qui me reviennent à l'esprit. On chassait avec un arc et des flèches, mais on utilisait aussi le lance-pierre pour les oiseaux. Les flèches, c'était pour les poissons et les lézards. On faisait aussi des pièges pour certaines espèces. La chasse aux oiseaux était prospère au moment où les arbres étaient en fleurs. Quand les manguiers et les nébédeys étaient couverts de fleurs, les amarantes, les perroquets ou les tisserins s'y posaient. Les oiseaux allaient boire dans les calebasses calées sur le tronc des palmistes pour récupérer la sève qui permet de faire le vin de palme. Ils étaient un peu saouls. Et c'était plus facile pour les attraper. On tirait beaucoup de pigeons, ça, c'était le top du top pour le ventre. On faisait griller nos prises au feu de bois et on mangeait tout, même les lézards. Les parents n'étaient pas toujours d'accord, mais on le faisait en cachette. Nos jeux, c'était parfois pour montrer qu'on était des grands. En fait, nous sommes tous de la même famille, les Sarrs. On fondait ce village, puis d'autres sont venus s'installer. Palmarin a été reconstruit sur le site actuel en 1928. Une énorme vague avait détruit le précédent village et les hommes ont dû reculer dans les terres pour s'éloigner de la mer. Originaire de Palmerin, au pays des Serrères. Être originaire de Palmarin, c'est appartenir à l'ethnie Sérère, une ethnie démographiquement minoritaire comparée aux Wolofs et comportant quelques catholiques dans un pays majoritairement musulman. Les prêtres blancs n'ont jamais empêché les pratiques animistes. Ils étaient venus pour évangéliser, mais tout en respectant les traditions des peuples côtoyés. Les prêtres venaient même assister à des cérémonies animistes. On a toujours conservé les deux religions animistes et catholiques. Thomas évoque fréquemment la famille Senghor, elle-même d'origine sérère. Quand on est sérère, on parle le Léopold Sédar Senghor. On parle de Léopold Sédar Senghor. Sa famille est originaire de Joal. C'est la référence numéro un. Il est devenu président du Sénégal au moment des indépendances, juste après la colonisation. Et puis, il est connu mondialement pour ses écrits et parce qu'il a beaucoup voyagé et rencontré de grands hommes politiques.
Donc, tu avais raison, on aurait pu parler le Léopold Sédar Senghor, parce que comme il est devenu académicien, il a une langue bien à lui.
Reconnaissable. Il a fait partie de ceux qui ont parlé de la négritude. Ça, c'est un mot important. Dans ma vie, j'ai à plusieurs reprises rencontré des membres de sa famille.
Oui, les Sars ou les Senghor, effectivement, c'est des familles sérères très étendues. Et donc, il y a beaucoup de Senghor, il y a beaucoup de Sars, on en rencontre tout le temps dans ces régions-là.
Les Palmarinois sont avant tout des cultivateurs et des pêcheurs. Et au village, il n'y a pas beaucoup de place pour les distractions. C'est l'activité économique qui occupe la majorité du temps. C'est elle qui fait vivre les familles. Ma maman avait un champ de coton. Avec sa production, elle fabriquait des fuseaux et à partir de ça, elle nous confectionnait des vêtements. Ma maman avait des salins partout. Elle en avait plein.
Et oui, les salins, c'est important. Hein. Le sel, c'est un objet de troc très important.
Maman Charlotte confiait le sel à des hommes de Palmarin. Un sel conditionné dans de petits paniers tressés. Ils allaient ensuite en pirogue vendre la production aux abords de Kaolack et en Gambie. Au retour, ils passaient à la maison et venaient payer le sel. Mon père partait lui aussi en pirogue vendre le poisson séché et le sel produit par sa femme. Il allait à Kaolack et Sokoné et m'emmenait de temps en temps pour m'initier. La cargaison était stockée dans des paniers de rognier tissé. Enfant, Thomas était passé maître dans l'art de la vannerie. Il produisait le plus souvent de grands paniers en hauteur, appelés anafa, destinés aux poissons, et les paniers ronds du nom d'Adamba, prévus pour le sel. Thomas dit avoir acquis ce savoir-faire sous l'arbre à palabres, un endroit presque mythique où se dispensent de nombreux enseignements. Les paysans sérères ont mis en place un système agro-pastoral relativement intensif et une économie domestique qui assure en priorité l'autoconsommation vivrière. Ils ont dans un premier temps exprimé une réticence à produire de l'arachide, pilier de l'économie du Sénégal. Puis, ils ont inséré l'arachide dans leur système agraire, tout en maintenant des dynamiques particulières de production. Allez, on va à la pêche ? En fait, on a commencé petit à s'intéresser aux poissons, d'abord avec des flèches, puis des flèches, on est passé à la palangrotte. Oui, la pêche à la ligne. On devait avoir une dizaine d'années, le soir on prenait une pirogue et on partait pêcher toute la nuit dans les bolongues. La pêche, c'était notre quotidien au village. On regardait faire les adultes, on était très attentifs et on reproduisait. On était fiers de savoir faire. Le mil, c'est un vrai souvenir. Un souvenir entretenu par ma sœur Sophie, qui m'envoie des gâteaux confectionnés avec cette céréale. Ces gâteaux, c'est toute mon enfance. Petit, j'étais le marmiton, celui qui faisait la vaisselle, qui aidait aux tâches ménagères. Maman n'avait pas encore eu de fille pour ça. Elle me récompensait en me donnant des petits gâteaux de mil. Après la récolte, on plaçait les graines dans les greniers et puis on avait les mois de novembre à mars pour faire la campagne de pêche. Durant l'année, les femmes allaient s'approvisionner dans les greniers familiaux où elles extrayaient les grains qui seraient consommés pour la semaine. Dans le grenier, les céréales étaient entreposées avec leurs tiges sous forme de bottes. Les femmes sortaient deux ou trois bottes qu'elles détachaient et posaient au sol avant de les battre pour détacher les grains. Les grains étaient ensuite ramassés et rassemblés dans des paniers ou des calebasses pour être acheminés au village. Palmarin était au centre de notre vie, mais à travers les différentes activités, nous avions cette possibilité de passer d'un village à l'autre, de découvrir de nouveaux territoires, soit en s'y déplaçant, soit en écoutant ceux qui passaient chez nous, mais qui vivaient à l'année dans d'autres régions. Je me souviens des Mauritaniens, c'était à la fin des années 1950, ils venaient au village avec des chameaux par caravane. Ils venaient, eux aussi, chercher du sel. Les villageois leur laissaient un terrain durant leur séjour, le temps de négocier leur cargaison. Ils payaient soit en argent, soit avec des étoffes, ou encore avec du lait de chameau. On ne connaissait pas le lait de chameau, et ma maman nous disait que c'était du lait de lion, et qu'on serait très fort si on en buvait. C'était une superbe ruse, et nous, les gamins, on y croyait. On en buvait un maximum, et on montrait aux autres nos muscles en disant qu'on était bien fort, comme des lions.
Oui, donc voilà un exemple de ce que je disais tout à l'heure, ce mélange des explications un petit peu neutres de Brigitte Bertoncello et puis des témoignages beaucoup plus illustrés et vivants de Tom lui-même. Donc, Tom dans son village, avec ses petits copains, bien sûr, on l'a vu, il chasse, il pêche, il imite les activités des adultes. Et puis les adultes, bien sûr, ils produisent et ils ont une économie vivrière assez équilibrée qu'ils refusent au début, on l'a vu, de déséquilibrer précisément par l'agriculture coloniale de l'arachide. Donc c'est intéressant de voir que dans des petits villages comme ça, où finalement les gens vivent assez bien de leur économie locale, ben finalement, introduire l'économie coloniale de l'arachide, c'est un déséquilibre. Et au début, ils refusent ce déséquilibre et finalement, après, ils ne l'introduisent qu'en petite quantité, pourrait-on dire. Enfin bon, voilà, c'est déjà l'après-guerre. Les villageois ont cette arrivée de l'économie coloniale. Ils savent aussi qu'en dehors de leur village, ben, il y a évidemment une autre vie, à Dakar d'abord, en France ensuite. Et la famille de Tom ne fait pas exception. On va voir en particulier qu'il a un grand frère à Dakar et que très vite, quand il rejoint ce grand frère, eh bien, il va avoir l'idée de quitter Dakar pour la France. Écoutons-le. La France, je la voyais à travers les religieux installés au village. Ils venaient tous de France, ils en parlaient sans arrêt. Je servais le dimanche à la messe, mais j'écoutais aussi les sœurs qui passaient chez nous. Elles prêchaient la bonne parole, surtout que Charlotte s'était vue confier une mission dans l'église. Maman Charlotte. Elle intervenait auprès des adultes qui voulaient se faire baptiser. Elle réunissait les gens pour les préparer au baptême. Alors du coup, il y avait souvent des religieuses à la maison. Et donc l'idée du départ pouvait germer, même si je ne savais pas vraiment ce qui m'attendait de l'autre côté de l'Atlantique. Au nord de l'Atlantique. La première migration, c'est Palmarin, Dakar. J'avais un grand frère, Barthélémy. À l'époque, il était mécanicien. Il faisait des courses de moto et il travaillait pour un patron installé à Dakar. Et il avait un garage implanté à côté du grand marché de Soumbédioune, dans le quartier de Gueultapé. J'avais envie de partir en France, j'en avais parlé à Barthélémy. Donc mon grand frère, ben, finalement c'est d'abord lui qui m'a permis d'être là, chez lui, et c'est lui qui m'a permis de penser au départ. Quand je suis venue voir Barthélémy, j'en ai profité presque tous les jours pour aller voir les bateaux dans le port. À Palmarin, il y avait des pirogues, mais les grands bateaux, on n'en voyait pas. Les grands bateaux, pour moi, comme pour les autres Sénégalais, ils allaient en France, ils allaient tous en France et pas ailleurs. Alors bon, Barthélémy et moi, on a commencé à penser à ce départ, et bien sûr, comme mes parents étaient responsables de tout dans la famille, que je n'avais rien entrepris sans eux depuis mon enfance, Quand on a commencé à aller avoir cette idée de départ, on est allé les voir à Palmarin pour en parler, pour demander leur autorisation et surtout leur bénédiction, pour leur dire qu'on pouvait acheter les billets, qu'on savait comment faire le nécessaire. Donc, il y a eu, comme on dit en langage moderne, un accord préalable. On avait discuté avec une religieuse qui était chez maman, on a discuté avec cette religieuse et avec maman, et moi, ma tête à moi, Tom, elle était déjà bien dans la couture, parce que maman Charlotte m'avait initiée, elle m'avait parlé de tout un tas de choses, et donc moi, le petit noir, j'avais bien envie d'aller voir au pays de Molière. Alors, la bonne sœur m'a donné l'adresse de son frère, Monsieur Brun, gérant de l'hôtel Continental, 6 rue Beauvau, à Marseille. Voilà, ça y était, j'avais un contact sur place. Et tout ça, l'histoire de la réflexion, des billets, du passeport, du contact à Marseille, bah tout ça finalement s'est fait en une année à peu près. Dans la mesure où il n'y avait pas encore de demande de visa pour la France, j'ai pu monter sur un bateau avec un passeport dont la destination était Liberia, Morovia, et puis quand même un billet pour Marseille. Bon, ça paraît extravagant, bien sûr, mais en fait, je me suis débrouillée, il n'y avait pas de souci. J'étais là à bord avec un passeport et un billet qui n'étaient pas conformes, mais ce n'était pas grave, c'était confortable quand même. Une fois sur le bateau, les billets ont été contrôlés. L'équipage n'a rien vu de cette irrégularité sans en être choqué en tout cas. Et la démarche a donc abouti. On m'a laissé voyager. J'ai fait Dakar, Las Palmas, Casablanca et Marseille, tout ça sans être inquiétée. En débarquant à Marseille, on m'avait dit « Bon, t'inquiète pas, il faut bien que tu fasses tout ce qu'on te dit. » Alors, j'étais obéissant et discipliné sur le bateau et j'étais obéissant et discipliné en arrivant à Marseille. J'ai montré mon adresse, écrite par la religieuse sur un bout de papier. On a tout vérifié, enfin ceux qui étaient dans le bateau ont vérifié avec moi. Ils sont venus à l'arrivée pour voir si c'était vrai. Eh ben oui, l'adresse était bonne. Tu vois, la vérité, c'est important. Et ma première image de Marseille, ben c'est les grilles du port. C'est fou, hein, il y avait des grandes grilles avec des pointes en haut, des grandes grilles pointues. À Marseille, les grilles étaient démesurées, comme gigantesques. Moi qui étais habituée aux pirogues, déjà j'avais trouvé que le bateau était comme un continent. Alors en arrivant sur le continent, ben oui, c'était autre chose. Ça, c'était la première arrivée, le débarquement, pourrait-on dire. Il arrive à Marseille et en fait, très vite, là, il passe sur un certain nombre d'éléments que nous retrouverons ensuite, mais il nous dit que son idéal, c'était de retourner rendre visite à ses parents. Et donc, très vite, il fait un saut dans le futur et il nous dit « Ben oui, je suis retournée au Sénégal en 1965. »
Je suis retournée au Sénégal en 1965. À cette date, j'étais toujours célibataire. Je n'avais pas encore rencontré la baronne. Il y avait Rose que je connaissais depuis l'enfance. C'était ma promise au village. Les immigrés rapportent au village des tas de choses, mais à mon avis, ils laissent aussi beaucoup ici en France. Je fais référence aux difficultés qu'ils connaissent dans leur quotidien, dans leur travail, au niveau de leurs conditions de vie. Il y a eu de la force, de la peine, de la souffrance. On les a vus et on les voit encore sur les chantiers. Aujourd'hui, il y a même des étudiants d'origine étrangère qui parlent un français universitaire, des petits noirs qui participent aux travaux de la ville. Ils sont sur les bords des routes, une pioche à la main. Il y a de la ségrégation à l'embauche, c'est sûr. Moi, je n'ai pas subi tout ça au niveau du travail. Dans les années 1960, on attendait les immigrés, on avait besoin de main-d'œuvre, il n'y avait pas de souci d'embauche.
Oui, donc là, en fait, Tom, il fait un genre de résumé. Il va ensuite nous expliquer son retour au village, ses visites au village, ses retrouvailles. Et il a ici fait un saut assez brutal entre son arrivée à Marseille et son premier retour au village. Il reviendra avec d'autres détails dans d'autres parties sur ses différents travaux à son arrivée.
La première maison que j'ai fait construire, c'est un bâtiment sur la parcelle familiale dans la concession de mon papa à Palmarin. C'était en 1965. Cette maison ne m'était pas propre, c'était pour la famille, entre guillemets. Je n'étais pas là, je ne pouvais donc pas en avoir la jouissance et ce sont mes frères et sœurs qui en ont profité. 10 ans plus tard, Tom se lance dans un deuxième investissement immobilier, mais cette fois-ci à Dakar. Un soir en 1976, on était chez Michel, un de mes frères. On discutait avec la baronne et on a décidé de trouver une maison familiale à Dakar. Nous, on habitait la Brousse et il fallait, pour les enfants, recréer le village à Dakar. Celle qui correspondait à notre recherche, c'était la maison de Grand Yoff. La parcelle comprenait 2 baraques et un bâtiment en dur. Dans un premier temps, on a fait démolir les baraques pour construire un bâtiment solide et dans un deuxième temps, on a programmé sur la maison existante une double extension dans le sens de la longueur et dans le sens de la hauteur en réalisant un étage. On a engagé un maçon, ou plutôt un maçon, son équipe et sa petite entreprise, comme dit Bachung dans la chanson. La maison a été occupée par toute la famille Sarr. D'abord dans la partie existante et ensuite en bénéficiant de nouvelles constructions. À l'instar d'autres migrants, Tom a opté pour l'investissement immobilier dans le pays d'origine, un investissement qui profite en premier lieu à sa famille et qui revêt une forte valeur symbolique. Le départ pour l'étranger n'a pas fait oublier le village et les membres du groupe familial. Et puis, j'ai emmené Claudie à Palmarin, mais il ne fallait pas aller trop vite et manquer l'introduction et la présentation des deux côtés. C'était le premier voyage de Claudie en Afrique. On a pris Lancerville au Cap Janet, la Joliette si tu préfères. Ma belle-mère pleurait. Les Noirs vont me manger, ma fille. Ma fille ne va plus revenir. Ce voyage se passait dans une période difficile où il était question en France de la traite des Blanches. Des filles disparaissaient, on les retrouvait sur les trottoirs de la rive sud de la Méditerranée. On en vivait notre histoire. Nous, on vivait notre histoire. Pendant le voyage, on a fait des connaissances. C'est un voyage qui a marqué à vie la baronne. Le soir, on s'habillait, on mangeait, et puis il y avait le baletti, comme on dit à Marseille. La suite du voyage, c'était Palmarin. Par respect, je venais demander la bénédiction de mes parents pour épouser la baronne à Marseille. Pour elle, c'était une sacrée aventure, il faut lui demander. Pour moi, c'était aussi beau que dans un film. Je partais, je suivais l'homme que j'avais choisi. J'avais la tête pleine de soleil pour lui. J'étais sûrement insouciante, je ne savais rien de là où j'allais. Il me disait seulement qu'on allait très loin pour que je rencontre sa famille. Je ne partais pas pour voir ce pays lointain, c'était pas pour l'Afrique. Ça aurait pu être la Sibérie, ça n'avait pas d'importance. Tu sais, tu ne sais pas où tu vas, mais c'est ça l'amour. À l'instar d'autres Sénégalais en migration, Thomas continue à financer des travaux dans son village et le maire ne manque pas de le remercier pour son engagement. Pour cela, il s'inscrit soit dans une démarche collective à travers les actions de l'association des ressortissants de Palmarin, soit dans des projets plus personnels. Depuis plusieurs années, Thomas participe aux actions de l'association des ressortissants de Palmarin qui cherche à réunir les migrants installés en France tout en les mobilisant sur la vie et le devenir de leur village d'origine. La situation environnementale inquiète les originaires du village et depuis peu, l'association s'engage dans la lutte pour le respect de l'environnement à Palmarin. L'état des lieux met en évidence un processus d'occupation non maîtrisé du littoral par des investisseurs désireux de participer au développement touristique. Cette partie de côte très convoitée fait l'objet d'acquisitions foncières en ordre dispersé pour la construction de campements et de structures hôtelières. Par ailleurs, la vente des terres a des prix très en dessous des normes du marché et la présence d'ordures autour du village ne laisse pas présager la mise en place d'un développement équitable et harmonieux, profitable aux autochtones. Après le lancement d'une pétition destinée à sensibiliser les consciences, l'association envisage des actions auprès du président de la communauté rurale dans l'idée d'instaurer des contrats avec les professionnels du tourisme. En juin 2004, Tom a observé, comme l'année précédente, les changements intervenus dans son village. Ces changements sont avant tout impulsés par des Blancs qui achètent des terrains en bord de mer et aménagent des complexes touristiques. Palmarin fait exception à tout point de vue. Elle est déjà plutôt bien intégrée dans l'environnement. L'ensemble est composé de cases de terre sur pilotis, construites au-dessus de l'eau ou de logements dans des baobabs. Ces constructions vont attirer les touristes plus sensibles au cadre de vie. Au lodge des collines de Niassan, Sylvie et Jean-Pierre, maîtres des lieux, proposent une ambiance, un état d'esprit peu courant. Tout en gérant leur entreprise, ils participent à la vie locale et respectent le protocole africain. Ils informent la clientèle des traditions à perpétuer et précisent que l'on doit éviter de montrer l'île du doigt, de marcher sur son sol et de prononcer le nom du génie. Ils accompagnent les clients dans la découverte des pratiques locales et de la région. Par rapport à toutes ces réalisations touristiques, le côté positif, c'est l'embauche de Sénégalais. Le village avait tendance à se vider et aujourd'hui, d'anciens habitants reviennent de Dakar pour chercher un emploi à Palmarin. Dans tout ça, il y a quelque chose de dommage. Ce ne sont pas les locaux qui lancent l'initiative, mais peut-être faut-il être d'ailleurs pour monter quelque chose dans nos villages. Il y a toujours la crainte pour un Africain d'être ensorcelé. Puis, il y a ce complexe d'infériorité qui laisse croire qu'un Blanc sait toujours mieux ce qu'il faut faire et comment. Autrefois, Palmarin était, comment dire, autonome. On avait du riz, du mil, du poisson, du sel. Aujourd'hui, tout est anéanti. Il n'y a plus de grenier à mil, plus de petits paniers en feuilles de rognier pour le sel. Le plastique a pris le relais. L'agriculture continue, mais dans une moindre proportion. Il reste la pêche. Les poissons sont consommés par les villageois, mais ils sont aussi transportés par camion vers les villes. Nous nourrissons une partie du Sénégal. Pour le sel, il est toujours exploité de manière artisanale, mais il n'est plus utilisé pour le troc. Il est commercialisé par camion pour l'exportation vers l'intérieur de l'Afrique. Certains producteurs acheminent ce sel par pirogue vers la Gambie. Il y a toujours eu cette liaison étroite entre Palmarin et la Gambie. La Gambie, c'est un autre monde. C'est l'univers anglais. Les produits y sont de nature différente et puis il y a toujours eu une réputation de qualité. La Gambie, c'est un poumon pour Palmarin. Ça laisse beaucoup d'ouverture au niveau du travail. Avec la pirogue, c'est assez facile de traverser et puis il y a la route. Mbour, Kaolack et la Gambie en passant par Passy. À Palmarin même, les activités sont réduites et les nouvelles opportunités liées souvent au développement du tourisme dans la région représente une solution économique pour quelques-uns. Palmarin vit aujourd'hui sur deux temps. Pendant les vacances scolaires, au moment de l'hivernage, le village connaît un second souffle grâce à l'arrivée des enfants des originaires de Palmarin. D'un seul coup, une jouvence de la Baie-Souris revigore le village. Les enfants, les adolescents, les jeunes adultes se retrouvent au village et vivent là. Ils abandonnent un temps la vie citadine et son confort et emboîtent le pas de leurs aïeux sur le chemin des puits. Le reste de l'année, le village est surtout occupé par des personnes âgées qui restent les piliers de Palmarin et quelques rares actifs. La migration touche le village comme d'autres coins du pays. Il y a la migration rurale vers les villes, mais aussi les migrations internationales. Et puis, il y a le rôle de l'instituteur. Comme lui, je recommande à mes neveux de rester au Sénégal. Je leur conseille d'essayer de faire leur vie là-bas. Sur l'immigration, j'ai fait le pain avec moi-même, toute la misère noire qu'il y a dans l'immigration. Tu as bien noté, misère noire, les jeux de mots, ça rend la réalité moins dure. Eh bien, aucun candidat au départ n'en est conscient. Les immigrés, une fois ici, sont sûrement contents d'avoir tout ce matériel acquis. Ils positivent, mais quand on voit ce qu'ils ont subi pour arriver là, construire quelque chose dans son pays d'origine, c'est bien. L'immigration, je ne la conseille pas à mes neveux. J'aurais plutôt tendance à les aider pour qu'ils restent là-bas. Les aider à monter leur entreprise sur place. C'est comme ça que le Sénégal se développera.
Oui, donc vous voyez ce raccourci de Tom entre son arrivée à Marseille et son retour à de nombreuses reprises d'ailleurs à Palmarin est intéressant parce qu'il met en perspective déjà la vision que Thomas a de la différence de culture, la différence de structure économique, la différence de mode de vie entre, bien sûr, l'Afrique et l'Europe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il fait preuve d'une assez grande clairvoyance. Il essaye, comme il dit, avec l'instituteur, de montrer aux jeunes que le départ, ce n'est pas la seule solution. On va, avec lui, rester encore un petit peu en Afrique, écouter de la musique sérère, et on vous retrouve ensuite. Voilà, avant notre pause musicale, on avait parcouru, avec de grandes ellipses d'ailleurs, on avait parcouru tout un panorama des allers-retours de Tom entre Marseille et le Sénégal, entre Marseille et son village de Palmarin, pour suivre justement l'évolution de son village d'origine, qui au départ vivait une économie complètement traditionnelle et puis qui a été saisie par évidemment le développement économique comme partout. Et on avait dit que Tom faisait vraiment preuve d'une grande clarté d'analyse, puisqu'il voit bien ce qui est à la fois positif et négatif dans ce développement économique qui entoure son village de Palmarin. On va maintenant aborder un autre grand chapitre, on va revenir à Marseille, où, comme on pouvait s'en douter, tout n'a pas été toujours simple, Mais l'histoire de Tom, c'est une histoire de rencontres. Et donc, les rencontres, les contacts à Marseille, eh bien, pour Tom, ça s'est surtout noué autour de Belzunce. Revenons donc sur ces différentes expériences marseillaises. Tom est venu à Marseille avec une adresse transmise par une religieuse, on l'a vu, une religieuse rencontrée à Palmarin. Il y avait juste les coordonnées du frère qui gérait un hôtel à quelques encablures du Vieux-Port. Ensuite, puisque Tom était hébergé dans cet hôtel, eh ben, il a rencontré des gens sur place. D'abord, il a commencé à rencontrer ceux qui s'intéressaient au championnat, évidemment du Stade Vélodrome, au championnat de l'OM. Il a commencé par rencontrer les sportifs, parce que quand on est sénégalais, on s'est tapé dans un ballon. Alors, quand on est sénégalais à Marseille, eh ben, on s'inscrit comme supporter de l'OM. Et donc, Tom, les premières rencontres qu'il fait, c'est avec des supporters de foot. Et ce sont des supporters de foot qui lui font rencontrer Monsieur Quittan. Monsieur Quittan, c'est un directeur d'atelier de couture et c'est avec Monsieur Quittan que Tom va commencer à travailler. Monsieur Quittan, qu'il considère d'ailleurs comme un maître. Monsieur Quittan organise des défilés au rythme de deux par an. Et ces défilés ont marqué la vie marseillaise dans des lieux comme le splendide hôtel qui était boulevard d'Athènes. Donc Tom se souvient des livraisons qu'il faisait dans les quartiers huppés de Marseille pour les bons et beaux clients de Monsieur Quittan. Il allait dans les ambassades, dans les riches maisons du Rue Casblanc. Alors qu'à l'origine, il ne connaît pas ces quartiers, eh bien, peu à peu, il va en effet s'orienter dans les différentes rues et les différentes voies de Marseille. Après Monsieur Quittan, eh bien, Tom va travailler chez Monsieur Vitalis. Monsieur Vitalis qu'il a rencontré au syndicat des tailleurs. Et chez Vitalis, il s'agit de tailler des costumes de ville, essentiellement pour des marins navigants, qui viennent chercher des costumes de ville quand ils débarquent à Marseille. Oui, les navigants, évidemment, Tom les retrouve avec plaisir, ce sont des Comoriens, des Malgaches, mais aussi des Somaliens ou des gens originaires d'Afrique occidentale. Chez Monsieur Vitalis, c'est un peu tous les navigants du monde qui font escale. Monsieur Vitalis, il en habille pas mal, oui, des navigants. Et puis après, ben, la clientèle se diversifie. Le bouche à oreille fonctionne bien. Donc, chez Vitalis, finalement, Tom, il apprend à tailler les costumes et il apprend à diversifier l'offre. Il va même lui-même s'acheter une petite moto rouge Suzuki pour faire ses livraisons. Et à partir de là, il va commencer à faire ses propres essayages à ses propres clients. Le patron, Monsieur Vitalis, n'est pas au courant, mais quand il l'apprendra, il prendra ça avec beaucoup de bonhomie. Et donc, pendant quelques années, Tom va avoir en parallèle son activité de salarié chez Monsieur Vitalis et déjà son activité de créateur. Mais son activité de créateur, bah oui, on l'a vu, ça va s'implanter à Belzunce. Au début des années 70, tout ce que tu pouvais vendre à Belzunce, ça s'achetait. Le commerce marchait très bien. Moi, Tom, je voulais travailler là. Mais pour ça, il fallait de l'argent. Il fallait de l'argent pour avoir un local, pour avoir des fournisseurs. Je n'avais pas l'argent nécessaire. Alors, d'autres m'ont soufflé qu'il y avait des marchés sauvages dans le quartier, dans le week-end en fait, où les boutiques étaient fermées. On allait acheter, en gros, dans les stands de livraison, des pantalons Lévi-Strauss ou des chemises de différentes compagnies. Et puis, on les vendait sur le trottoir pendant le week-end. Je vendais comme les autres sur les trottoirs une marchandise posée directement sur des lits de camp. Et on avait des super grosses marges. Alors, c'est avec ces super grosses marges que j'ai fini par avoir l'argent pour avoir ma boutique et me débrouiller tout seul. En venant régulièrement à Belzunce, j'avais repéré à partir des rues principales où je pouvais trouver des locaux vides. Et j'en ai trouvé un, oui. J'en ai trouvé un, c'était drôle. Au-dessus d'une cave, localisée dans le sous-sol d'un bâtiment, C'était Madame Mandy, justement, une Sénégalaise qui était propriétaire de la cave. Et au-dessus de sa cave, ben non, il n'y avait rien, il y avait un local vide. Alors, ce local, ben oui, je lui ai loué et je m'y suis installée pour avoir ma boutique. De novembre au réveillon, avec la baronne, peu à peu, oui, on travaillait jusqu'à 2 h du matin. La baronne, elle faisait la petite main, elle réalisait les bas de pantalon, les boutonnières, les marquages. Et moi, ben, je cousais ce que j'avais coupé. Les réalisations sur mesure qui dominaient largement mon activité. Puisque la clientèle d'alors était composée de jeunes, mais aussi d'autres que je connaissais de chez Monsieur Vitalis et qui m'avaient suivi dans ma nouvelle boutique. J'étais un symbole pour eux. J'étais le premier Africain à avoir pignon sur rue, avec une raison sociale et une inscription à la Chambre des métiers. Dans le quartier, il n'y avait guère que des cafetiers qui étaient des Noirs d'origine. Et puis, avec l'évolution de la clientèle, finalement, j'ai eu d'autres idées. Par l'intermédiaire d'un voisin, vendeur de disques, j'ai découvert le reggae en écoutant des 45 tours de Jimmy Cliff. Et à l'occasion d'un concert de Jimmy Cliff à Marseille, en plus de mes vêtements, dans ma boutique, j'ai exposé des petits objets rasta, des petits objets reggae, des petits objets qui rappelaient Jimmy Cliff, sa famille, qui montraient que, oui, moi, avec mes lacets en vert, jaune, rouge, mes couleurs africaines fétiches, mon téléphone, ma bouilloire, finalement, je pouvais être un repère pour les amateurs de reggae et pour les amateurs rasta, bien sûr. Voilà. J'ai commencé à diversifier ma clientèle, à diversifier mes produits, et c'est comme ça que j'ai été me ravitailler en Grande-Bretagne. J'ai rencontré Mile, une Américaine que j'avais connue par une ancienne bande d'étudiants d'Aix, et elle, finalement, c'est ce qu'elle faisait. Elle allait chercher des trucs vraiment, en Grande-Bretagne, à Londres. C'était une habituée de l'excentricité. En réalité, elle avait commencé en s'occupant de la mode à l'ambassade de France à New York. Et puis, c'était devenu son métier. Elle fournissait des gens, mais de toutes les nationalités. Et elle avait retrouvé à Londres l'Afrique et ses couleurs pour d'autres entrées dans une vie où les rastas et les reggae faisaient vraiment la une des journaux. Après, on a connu Ursula. Ursula, c'était un autre point de chute à Londres. Je l'avais rencontrée à Marseille, justement à un moment où je m'étais mis à apprendre l'anglais avec une prof du lycée d'Aumier. Et elle m'a fait rencontrer toutes ses assistantes. C'est comme ça que j'ai rencontré Ursula. On avait notre chambre dans la maison d'Ursula à Northwood Junction. Et là, à partir de 1990-91, voilà, on allait à Londres passer directement nos commandes. Et derrière les trois couleurs rasta, derrière les trois couleurs reggae, il y avait toute une philosophie, un mode de vie. Autre chose que la petite fumette, hein. Il est vrai que c'est souvent ça que les gens retiennent. C'est ce qu'ils voient le plus facilement. Mais un rasta, c'est aussi un être sensible qui réfléchit au monde. On parle toujours de Babylone. Ben oui, Babylone, on le dénonce, c'est le système, bien sûr, c'est comme ça que les Rastas l'appellent. Et beaucoup essayent de combattre ce système de Babylone. Mais en 1978, Bob Marley et les Wailers ont sorti un disque qui était intitulé Babylon by Bus. Et c'était le nom de la tournée qu'ils avaient réalisée aux États-Unis. Une tournée géante, une tournée presque intégré dans le système, même s'il le dénonçait. Alors, le système, oui, c'est un type de développement économique, un type de consommation. Il ne faut pas en devenir esclave. Mais nous, ça nous a bien permis de décoller. Tout ceci n'est peut-être pas toujours cohérent. On est dans Babylone, en dehors de Babylone, on dénonce Babylone. Mais où les Rastas vont-ils programmer leurs concerts? Où vont-ils enregistrer leurs disques? À Londres, à Babylone? Finalement, c'est bien ça. Moi, je suis un révolutionnaire très modéré. Je fais la part des choses. Et en 90, on a commencé à avoir vraiment des gens connus dans la boutique. En 90, Gainsbourg est venu dans ma boutique. C'était sa période reggae. Il était sensible au milieu africain. Il avait vu dans un pressbook mes costumes, mes créations, et c'était ça qui l'intéressait. En fait, ça n'a pas été très compliqué. C'est moi qui ai proposé des tenues de scène avec des pantalons, des gilets, et puis bien sûr, oui, sur la tête, les coiffes bariolées, les Audax. Et peu à peu, ben oui, d'autres musiciens, d'autres stars sont venus stationner devant chez moi dans le quartier Belzunce. Je leur ai pris leurs mesures, je leur ai fait des essayages et on a fait des photographies de Tom avec Serge Gainsbourg, avec Boringer et avec bien d'autres qui venaient chez moi chercher ce qu'ils avaient envie, c'est-à-dire le rasta, le reggae, la couleur africaine et bien d'autres couleurs aussi. C'est donc l'histoire de Thomas Tom Saar en tant que créateur qui commence. Il a installé sa boutique, il rencontre des personnalités, il rencontre à Marseille des gens plus ou moins connus mais qui le relancent vers d'autres qui, eux, sont de véritables vedettes. Et donc, on va voir avec Françoise la suite de la réussite de sa boutique. Et nous reviendrons de façon un petit peu plus large ensuite sur tout ce qu'il nous dit sur Belzunce et Marseille, où il est si content d'être arrivé.
Ce qu'il faut dire, c'est que cette création de vêtements rasta s'inscrit dans un univers, celui de la musique. On ne peut pas dissocier les deux. C'est la musique qui m'a amené à faire des vêtements reggae. Pendant plusieurs années, j'ai vendu des billets pour les différents concerts de la région, et puis à l'occasion d'un concert de Bob Marley programmé à Toulon. Les organisateurs ont voulu inscrire sur les affiches une publicité pour ma boutique. Je suis presque devenue quelqu'un d'important. Quand je vois la création des grands couturiers, ça me fait rire. C'est la création avec un grand C. Alors tout de suite, c'est beaucoup plus sérieux. Moi, l'inspiration, elle me vient souvent dans la rue, en regardant autour de moi. Il faut dire que souvent, les gens sont mal habillés, et c'est peut-être pour ça que j'invente autre chose. En ce moment, ils nous refont les pantalons larges, le tweed et la mini-jupe. Mais tout cela existait déjà il y a quelques dizaines d'années. En fait, il ne faut pas tricher. La mode, c'est l'éternel recommencement. On ne crée pas vraiment, on améliore. Dans son atelier de couture, Tom peut tout aussi bien effectuer une retouche sur un pantalon usé d'un vieil Africain retraité ou sur la robe dernière mode de la fille d'un commerçant arménien du quartier, créer un nouveau modèle pour une Marseillaise en mal d'originalité ou encore composer les costumes des musiciens d'un spectacle. La boutique est investie par une clientèle d'artistes qui savent que le sur-mesure rasta est possible ici, mais je ne peux pas faire du sur-mesure africain. Mais oui, côté corps, j'entends. Pour revenir aux artistes, c'est ici et maintenant, autrement dit, carpe diem. Et quand ils sont dans la boutique, ils hument le thé, le savourent en attendant leurs vêtements. Il ne faudrait pas croire que seules les célébrités du showbiz fréquentent la boutique de Tom. Des gens ordinaires connaissent aussi cette adresse et semblent s'être habitués aux humeurs du tailleur. Les délais ne sont pas toujours respectés, mais l'ambiance chaleureuse et les éclats de rire en prime estompent la mauvaise humeur des râleurs. Marie, une vieille arménienne du quartier, vient demander à Tom où en est la retouche du pantalon de sa copine. Et Tom lui répond « En ce moment, je n'ai pas envie. Faut pas s'inquiéter. Il est là, le pantalon, sous la pile. Et tous les matins, il me regarde, mais je lui dis « Non, d'abord je vais boire mon café, après on verra. » On n'est pas pressé, Madame Marie. Ça finira par se faire. Allez, bon après-midi et à demain. » Marie, elle ne se fâche pas. Comme ça, elle a l'occasion de revenir, de sortir de chez elle et de s'engatser un peu avec son voisin. Ma clientèle est composée de... Disons plutôt la composition de ma clientèle est en permanente recomposition. Entre composition de clientèle et composition d'école, il y a un grand écart. Mais c'est le même mot. La langue française réserve de drôles de surprises. Ma clientèle est plutôt cosmopolite et cette cosmopolitanité me permet de toujours diversifier. De fil en aiguille, ça amène de nouvelles personnes. De fil en aiguille pour un tailleur, c'est génial. Il y a des gens inattendus, des gens par exemple qui font des crémaillères, des soirées costumées. En fait, les vêtements qu'ils achètent pour un événement particulier, Ils peuvent ensuite les porter, mais ils ne le disent pas parce qu'ils appartiennent à d'autres univers plus bourgeois. C'est l'opportunité d'essayer un autre style, de rompre un peu les habitudes vestimentaires. C'est souvent par le biais de leurs enfants qui connaissent la boutique que des parents poussent la porte du 22 de la rue des Petites Maries. Parfois aussi, des acheteurs qui ne trouvent pas leur bonheur sur les marchés sont orientés par les vendeurs africains vers ma boutique. Et puis en ce moment, l'Afrique est à l'honneur. Il y a une mode qui valorise les pagnes, les tissus africains. J'en ai beaucoup vendu ces derniers temps. J'en avais ramené du Sénégal en mai dernier.
Voilà, c'est donc l'histoire de la boutique et de l'activité de la boutique. Mais l'activité de la boutique, comme vient de le suggérer Tom, c'est vraiment aussi l'activité de Tom au sein d'un quartier. Tout le monde le connaît, tout le monde lui envoie des clients. Et lui, il est bien content d'être là, à Belzins, et de se filer, disons, comme les autres, dans l'ambiance du quartier. Il va nous raconter un certain nombre de choses sur Belzins et Marseille. Belzins, c'était un quartier européen, quand je suis arrivée. Les commerçants étaient très mélangés, en effet. Mais Madame Mendy était la seule Sénégalaise, la seule Africaine. Elle tenait la cave sous la boutique. Il y avait aussi les deux frères Jacques, qui tenaient le café sur la placette. D'ailleurs, l'établissement est toujours là. Il y avait Mireille, qui vendait à côté, dans une baraque quasi accrochée au mur, des bonbons. Il y avait le bar Tonin. Ah oui, aujourd'hui, il est fermé. Il y avait l'agence de voyage, un marchand de vin, la boulangerie. Ah, la boulangerie, elle était tenue par des Espagnols. Et puis après, des Maghrébins ont repris l'affaire. Il y avait Intérieur arménien aussi, pas très loin. Il y avait le marchand de disques, on en a parlé. Vous savez, Monsieur Kahn, alors ça, je lui en dois une fière chandelle. Et puis, bon, il y avait aussi les petites dames pour faire plaisir aux hommes. Hein. Il y en avait partout dans le quartier. Il y avait le cordonnier, le marchand de charbon, le coiffeur, Nicolas. Et puis, il y en avait toujours d'autres. Les vendeurs de vêtements qui, comme on l'a vu, venaient de temps en temps s'installer sur les trottoirs, mais ceux aussi qui géraient de belles boutiques, comme les Arméniens, la confection de la Méditerranée. Le bureau de tabac, qui s'appelait le Marineland, qui était tenu par Madame Louis. L'hôtel de l'Orient. Enfin, tout un puzzle, toute une mosaïque. Vous savez, c'est dans cette rue qu'on a tourné le film Angèle avec Fernandel. Et il était venu à l'origine chercher des prostituées, tourner dans le quartier des prostituées. Et finalement, le quartier a plu et c'est ce quartier qu'on a dans le film. Quand la navigation a diminué, il y a eu de moins en moins d'Africains dans le quartier. Les Maghrébins, eux, ils sont arrivés plus nombreux. Et dans le cadre de mon métier, je continuais bien sûr à faire des costumes pour les navigateurs africains, mais ils étaient moins nombreux. Belzins a accueilli des migrants qui venaient de partout, des migrants débarqués dans le port, oui, il y en avait tout le temps, des migrants désireux de prolonger le voyage ou de s'installer au contraire. Il y a eu les Italiens, les Grecs, les Arméniens, les Africains. Et puis, on l'a vu, les Maghrébins, oui, les Algériens qui sont venus en groupe dominant à un moment donné. Tout ça, c'est l'ensemble de la vie du quartier avec quelquefois ces règlements de compte, ces bagarres. Ah bah oui, tout n'était pas toujours très paisible. Mais ce n'était pas dangereux de vivre là. En tout cas, je ne le voyais pas, moi j'étais dedans. Tous les immigrés, on était tous là, tous bien ensemble. Et puis de nombreux Européens encore, des marchands de peau, des marchands d'œufs. Ah oui, tiens, il y avait un marchand d'œufs ambulant qui disait tous les jours Jean Gobin. Les boucheries, les charcuteries, enfin bref, bon, tout ça. Belzins a accueilli les différentes vagues migratoires arrivées à Marseille. Et ça a constitué un quartier à la fois de transit et d'installation. À Belzins, chaque parcours résidentiel avait des points d'ancrage. À Belzins, chaque communauté a laissé son empreinte à travers les enseignes, les vitrines et la vie qui est restée dans le quartier. On va laisser Tom et la vie de Belzins. On va vous dire peut-être au revoir pour la vie de Marseille aujourd'hui. On va vous retrouver bientôt avec d'autres migrants, d'autres caractères, d'autres personnalités et bien sûr pour d'autres aventures. À bientôt.
Au revoir.
A song that comes from Tanzania.